Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Cancer, osez en parler, le podcast de la Ligue contre le cancer, comité 13. Aujourd'hui, nous recevons Brigitte Chambon qui vient nous parler de l'épreuve qu'elle a eue à traverser, le cancer du côlon. C'est l'un des plus fréquents en France, il touche chaque année plus de 43 000 personnes et cause 17 000 décès. Dans plus de 80% des cas, le cancer colorectal provient d'une tumeur bénigne qui évolue lentement et finit par devenir cancéreuse. D'où l'importance de votre témoignage aujourd'hui. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Comment tout a commencé pour vous? Comment ce cancer a-t-il été diagnostiqué?
Alors, cela a commencé par une gêne au niveau de l'anus. Je n'étais pas malade, je n'avais pas de saignement. Je faisais mon analyse de sel tous les 2 ans. Rien n'était signalé, tout allait bien. Si ce n'est donc une gêne au niveau de l'anus et l'apparition de quelques pertes au niveau de cet anus, justement. Voyant cela, et cette gêne étant de plus en plus importante, je dis, bon, je vais aller voir ma généraliste. Et donc, nous avons abordé ce problème-là. Elle m'a orientée directement vers un oncologue et un gastro-entérologue. Dès que ce rendez-vous a été pris, on a fait tous les examens. Et donc, j'ai eu un diagnostic du cancer du canal anal et d'une partie du rectum, en fait. C'était en juillet 2020.
On peut peut-être vous demander, ça ne se fait pas trop, mais vous demandez votre âge.
Oui, j'ai 66 ans.
Voilà. Donc, on estime qu'avant 50 ans, ce cancer-là est très rare.
Ouais.
Qu'au-delà, il est important vraiment de se surveiller. C'est ce que vous faisiez. Pour autant, vous parliez du prélèvement de
oui,
sel qui n'a jamais rien décelé.
Non, parce qu'il n'y avait aucun saignement. Mes selles étaient normales. En fait, il a fallu que j'aie une gêne. Donc, ça renvoie à écouter son corps. C'est une nécessité absolue. C'est que dès que l'on sent quelque chose au niveau de son corps, dès que l'on sent notamment une gêne ou des démangeaisons, il ne faut pas hésiter à faire une coloscopie, je pense, aujourd'hui.
Alors, tous sexes confondus, on estime qu'environ un cancer colorectal sur 5 est diagnostiqué à un stade local limité. Donc le traitement est alors moins lourd, donne de meilleurs résultats. On ne répétera jamais assez l'importance de la prévention, vous en êtes la preuve. Comment cela s'est passé à partir du moment où on vous a orienté donc vers un oncologue et un service spécialisé? Comment avez-vous vécu l'annonce et puis le début des traitements, bien sûr?
Alors, pour l'annonce, je vais vous dire une chose. J'ai été marquée par la difficulté de mon interlocuteur à parler clairement du problème que j'avais. Ça veut dire qu'il a fallu que je m'agace un peu dans son bureau pour obtenir des informations précises. Pour moi, c'est ma santé. Faire des faux semblants dans des moments où on peut risquer sa vie, c'est totalement inutile et je trouve qu'on doit une honnêteté absolue au patient en faisant bien entendu attention à son comportement ou à son émotivité. Mais dire clairement les choses, c'est très important. Et j'ai réclamé cette information claire et précise. Voilà.
Après, selon vous, c'était pas assez clair? On vous a quoi? Materné, infantilisé? Comment vous définiriez ce moment?
On m'a dit les choses à demi-mot. On m'a dit, vous avez un cancer du canal anal. Oui, il va y avoir un traitement. Mais j'ai pas pu savoir plus. Et il a fallu que je demande un peu plus pour savoir que ce cancer du canal anal atteignait aussi le rectum, qu'il y avait 3 foyers dans cette région pelvienne et que c'était un cancer de niveau 3. Ça veut dire que les millimètres ou les centimètres dépassaient. Donc, ça avait une qualification de moyenne importance, en fait. Voilà. Mais il a fallu que je réclame ça.
Donc, vous réagissez, vous réagissez pas bien, parce qu'à cette annonce, on ne peut pas réagir bien, mais vous demandez davantage d'informations. Vous voulez savoir à quoi vous vous confrontez?
Absolument, à quoi je me confronte, qu'est-ce qui va m'arriver? Et en fait, c'est là qu'on prend aussi conscience. Alors, moi, je dois le dire, je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de chance, qui a vécu sur cette chance-là. Et en fait, quand on apprend qu'on a un cancer, on mesure l'importance de la vie, l'importance de chaque jour et de chaque moment. Et donc, en juin 2021, j'entame cette radiothérapie avec calme et détermination. Voilà. C'est-à-dire qu'il adviendra ce qu'il adviendra, mais je me fais soigner et j'obéis clairement à toutes les consignes qui me sont données. Ceci dit, ces consignes, il m'en manque certaines. Parce que quand on fait une radiothérapie du bas-ventre, de la zone pelvienne, la peau sèche. La peau des parties génitales, mais la peau des fesses aussi. Et quand je demande à mon oncologue qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce confort, il me dit « mettez vos fesses dans l'eau fraîche, cela va améliorer ». Mais en fait, rien ne se passe. Parallèlement à ça, je démarre une chimiothérapie, la première, puisque j'en ai eu deux. Et par la suite, l'été 2021, je rencontre une oncologue qui remplace mon oncologue habituel et qui, elle, enfin, m'informe que lorsqu'on a un cancer du canal anal et d'une partie du rectum, donc des parties basses du corps, il ne faut pas hésiter à utiliser le liniment oléocalcaire, la crème cicalfalte, pour soulager la sécheresse du bas du corps, en fait. Et à partir de ce moment-là, je suis mieux. Je me rends compte qu'il y a des professionnels qui savent et d'autres qui savent un peu moins. Voilà.
Est-ce que sans généraliser, vous sous-entendez que les hommes sont peut-être insensible parfois aux requêtes des femmes et que c'est une oncologue femme qui a trouvé la solution pourtant très simple finalement à ces problèmes?
J'ai envie de le sous-entendre en fait. Honnêtement, ça ne me fait pas plaisir de dire ça parce que même si je suis un peu sexiste, je respecte les hommes et leur savoir. Ils étaient compétents, agréables, mais en matière de souffrance pendant le traitement, il faut reconnaître que tremper les fesses dans l'eau, ben, ça n'a rien de positif parce qu'en fait, l'eau sèche la peau. L'eau est calcaire, notamment à Marseille, et l'eau sèche la peau. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser le liniment oléocalcaire pour se nettoyer. Rien n'est sale, on devient comme les fesses d'un bébé. Et après, si on a quelques saignements, ne pas hésiter autour de l'anus à utiliser le cicalfalte ou autre crème. Voilà.
C'est très important ce que vous nous dites là, parce que ce podcast sert aussi à faire tomber les tabous. Ça s'appelle d'ailleurs Cancer, oser en parler. Osons en parler et osons dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, celles et ceux qui nous écoutent seront peut-être attentifs à cette information. Je crois que vous n'avez pas hésité à relayer d'ailleurs après, quand vous étiez en salle d'attente, vous avez partagé cette info.
Fait. Je trouvais que c'était incroyable que l'on reste des fois à souffrir sans avoir des informations pour aller vers le mieux-être. Du coup, cet oncologue que j'ai rencontré un été à l'hôpital européen est devenu mon médecin traitant pour ce cancer, en fait. Voilà. Mais je n'ai pas hésité à relayer, effectivement.
Autre info que vous relayez à ce moment-là aussi dans les salles d'attente, c'est que cette maison bien-être dans laquelle nous enregistrons aujourd'hui existe. Vous avez incité des personnes
J'ai commencé
à venir.
Voilà, j'ai commencé modestement, en fait, à en parler. Alors, pourquoi j'ai eu besoin de venir à la maison du bien-être? Parce que quand j'ai fait ma deuxième chimiothérapie, je suis sensible au lactose et au gluten. Donc, j'avais déjà une alimentation où je faisais un peu attention. Mais là, en fait, j'ai découvert que la chimiothérapie, la radiothérapie génère des diarrhées, des gaz. Moi, j'ai eu énormément de flatulences. N'ayons pas peur, j'ai beaucoup pété. Et pété en public, pété au cours de yoga, pété dans une salle d'attente, eh bien, c'est vraiment pas agréable. Donc, j'ai voulu rencontrer une diététicienne. Dans les hôpitaux, celle-ci était surchargée de travail. Et donc, quand j'ai su que la maison du bien-être existait par le site des maladies rares, eh bien, j'ai vu qu'il y avait une diététicienne qui pouvait me recevoir. Et donc, j'ai pris rendez-vous pour avoir des conseils concernant les diarrhées, les flatulences ou les pets. Voilà, tout ce qu'on doit gérer dans ce quotidien après une chimiothérapie et après une radiothérapie assez importante. Et donc, j'ai été reçue par une diététicienne. J'ai payé 20 euros d'abonnement et vraiment, j'ai été extrêmement bien renseignée. On a même fait un bilan de mon hydratation. Enfin, elle a fait un bilan sur mon état de santé général et en fait, elle m'a donné plein de conseils pour manger sainement. Alors, manger sainement, ça ne veut pas dire dépenser beaucoup d'argent, en fait. Ça veut dire surtout manger des produits frais. Éviter de faire du réchauffé. Le réchauffé, ça favorise les gaz et ça peut entraîner aussi des diarrhées, un peu plus en fait. Donc, manger du riz, manger des légumes avec des fibres, mais tout doucement. Chacun voit comment son corps évolue et je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous à la Maison du Bien-être avec la diététicienne parce que c'est très très intéressant, on apprend plein de choses. Parallèlement à ça, j'ai découvert qu'il y avait dans cette maison du bien-être, outre la diététique, les activités physiques adaptées auxquelles je vais m'inscrire, des soins socio-esthétiques et d'image de soi. Alors c'est vrai que quand on a un cancer, on prend quand même une claque. Donc se faire du bien et apprendre à se regarder ou à se retrouver, c'est très intéressant. Il y a un corner coiffure, de la relaxation, un atelier culinaire, un atelier d'échange et d'expression avec de la créativité, on peut faire du crochet et des expositions et des conférences. Donc tout ça, en fait, moi j'ai trouvé que c'était une mine d'or et je me suis dit, il faut en parler, quoi.
Voilà. C'est super, mais quelle merveilleuse ambassadrice vous faites. Vous avez presque tout dit, donc merci d'inciter voilà, les malades et les aidants qui peuvent aussi franchir cette porte. Faut pas hésiter. Et parfois, juste pour trouver une oreille attentive et quelqu'un à qui parler.
Alors, j'ai encore une chose à dire.
Et je vous en prie.
J'ai oublié, en fait. C'est que quand on a une radiothérapie et une chimiothérapie et qu'on vous annonce après que vous êtes en début de phase de rémission, ce qui est mon cas, ben, on imagine que ben, tout va bien, on va pouvoir repartir demain comme d'habitude. Eh ben non. Non, parce que le corps a emmagasiné énormément de produits chimiques. Il y a des réactions qui sont sur du long terme. Et donc, on a une fatigue. Et cette fatigue-là, il faut vraiment y faire attention. Ça veut dire que vous avez le droit de faire la sieste l'après-midi. Ça veut dire que vous pouvez rester plus longtemps au lit le matin. Mais il faut prendre soin de son corps qui a vécu des choses importantes et prendre soin aussi de son mental. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Et je sais que c'est important ce que vous venez d'ajouter. Voilà. Ça s'entend, Brigitte, mais vous êtes quelqu'un de très dynamique. Vous avez beaucoup marché, vous marchiez beaucoup avant. Vous avez continué après l'annonce de cette maladie. Vous pensez que ça vous a aidé, évidemment?
Alors, j'ai entendu, en étant à l'hôpital européen, une infirmière qui est venue me voir et qui m'a dit « Quoi qu'il se passe, marchez beaucoup. » Bon, moi, je suis quelqu'un qui marche par nature. J'aime traverser la ville, etc. Bon, là, il est évident que pendant la radiothérapie et la chimiothérapie, je ne pouvais plus le faire. Donc, je faisais le tour de mon immeuble, simplement. Et quand j'ai arrêté les traitements, enfin, que les traitements ont été jusqu'au bout, c'est là que j'ai fait Zorro. J'ai dit, oh, je vais traverser le boulevard du Prado, etc. Mais en fait, j'étais encore trop fatiguée. Donc, j'ai fait un petit bout de chemin et je suis rentrée. J'ai été progressivement dans cette marche à nouveau, en fait. Parce qu'en fait, la marche, ça favorise la circulation sanguine. Et favoriser la circulation sanguine, ça favorise le soin et la santé des tissus du bas-ventre notamment. Voilà.
Encore un très bon conseil. Alors Brigitte, 6 millions de personnes ont réalisé un test de dépistage du cancer colorectal en 2021. Ça représente un taux de participation de 35% et c'est 5% de plus qu'en 2018. Donc on peut se féliciter de cette nouvelle, on le dira jamais assez.
Tout à fait.
Hommes et femmes.
Tout à fait.
Pensez-y, c'est pas grand chose à faire et comme vous le disiez tout à l'heure, et ce qui est encore peut-être plus important, soyez à l'écoute de votre corps.
Tout à fait.
On se connaît.
Voilà, dès qu'il y a quelque chose qui se passe en bas, il ne faut pas hésiter à faire une coloscopie. C'est pas très agréable, c'est vrai, mais si ça vous évite une chimio ou une radiothérapie après, ça vaut le coup de le faire.
C'est très très juste. Merci mille fois Brigitte pour ce témoignage très authentique, en toute transparence. C'est ce qu'on veut ici et c'est ce que les gens qui nous écoutent attendent aussi parce que c'est important. Mmh. Et s'ils sont en train de traverser cette épreuve, ben, je vais vous laisser le mot de la fin. En tout cas, tout ce que vous avez déjà dit est extrêmement précieux, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Je vous souhaite du courage, de la couleur, du soleil et de la considération de vous-même. Bon courage, au revoir.
Au revoir Brigitte, merci beaucoup.
Bonjour, c'est Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci, merci à chacun d'entre vous d'avoir écouté ce podcast réalisé par la Ligue régionale dans le cadre du plan cancer de la région Sud. Merci à vous.